Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Comme changer notre regard sur les situations en cultivant l'optimisme? On dit de la France que c'est un pays qui broie du noir et que les Français sont pessimistes de nature. Faut-il donc cultiver l'optimisme dès le plus jeune âge pour renverser la tendance? Mais ça veut dire quoi être optimiste? Est-ce que des personnalités le sont de naissance? Serait-ce génétique? Qu'est-ce que l'optimisme apporte au niveau de la santé, au niveau social, au niveau professionnel? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec quatre invités qui vont nous donner la forme et la pêche ce matin dans Quête de sens. J'ai le plaisir d'accueillir, alors on va commencer par l'ordre de la table du studio. Tiens, Carina Léon, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Carina Léon, vous êtes coach et formatrice en communication interpersonnelle, synergie d'équipe et intelligence collective. Avec Christophe Tricard, vous créez et co-animez des journées team building ou des ateliers, l'optimisme en action. Et on peut vous retrouver sur un site, lesoptimismedelavie.fr.
Oui, c'est celui de Christophe.
Voilà. Et puis, on parlera d'un atelier que vous allez proposer, je crois, l'année
prochaine. Très prochainement, oui,
voilà.
Merci.
Delphine Lujbulle, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Bienvenue. Vous êtes ingénieure de l'École centrale Paris, diplômée de psychologie à l'Université Paris 8. Vous intervenez en entreprise comme coach et conférencière. Vous accompagnez également des particuliers en quête d'épanouissement professionnel et personnel. Et vous êtes co-auteur du livre « Cultiver l'optimisme » paru aux éditions Erol, un livre que vous avez fait paraître avec Aurélie Penel. Aurélie Penel, bonjour, bienvenue.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes diplômée de l'École de management de Grenoble. Vous dirigez depuis plus de 15 ans des équipes de taille variée dans un grand groupe industriel français. Vous exercez également une activité donc, de consultante et de conférencière, puisque vous avez été aussi co-auteur de ce livre, je viens de le dire, Cultiver l'optimisme. Et pour finir, Philippe Gabillier, bonjour, bienvenue.
Bonjour Sophie, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes professeur en psychologie sociale, conférencier, spécialiste de la motivation et des stratégies mentales de la réussite, et auteur notamment de cet ouvrage « L'éloge de l'optimisme » paru aux éditions. J'ai lu avec ce sous-titre « Quand les enthousiastes font bouger le monde ». Enthousiaste et optimiste, c'est la même chose ?
Non, ce n'est pas exactement la même chose, mais il peut y avoir un lien. Disons qu'être enthousiaste, celui qui est enthousiaste a intérêt à être optimiste, parce que l'enthousiasme pessimiste crée du dégât, généralement.
Oui, voilà. Il y a quelque
donc,
chose
voilà.
qui ne va pas dans la...
Mais bon, c'est pas, c'est, je dirais, comme vous savez, ce n'est pas dans cette radio que je rappellerai, enfin je vais le faire quand même, l'étymologie d'enthousiasme, hein, qui est entheos atmos, donc dans le souffle de Dieu. Donc logiquement, on est censé, celui qui est dans ce souffle de la conscience universelle, ou peu importe, il est ou elle est censée être plus optimiste que les autres.
Alors, puisque
mais
dans
c'est
les
un
définitions,
optimisme très, de très grand taille. L'optimisme au quotidien n'a pas obligatoirement besoin d'enthousiasme.
Mmh. Puisqu'on est dans les définitions et dans l'étymologie, optimisme, ça vient de quoi ? Philippe Gabillier.
Ça vient d'optimus, en fait. Donc en grec, c'était, en latin, pardon, c'était ce optimus, ce qui est le plus grand.
Le meilleur.
Il y avait d'ailleurs un mot le qui mieux. A disparu des langues françaises, qui était un adjectif, qui était être optime, une situation optime jusqu'au XVIIe, c'était ça. Mais l'optimisme en tant que tel, c'est un mot qui a été inventé, c'est un néologisme, c'est inventé par des jésuites, qui en fait critiquait la pensée de Leibniz et qui lui reprochait. C'était un reproche au départ.
Comme
il
Voltaire,
lui reprochait
finalement.
D'être optimiste. Absolument.
Comme
mais
Voltaire.
Si c'était que c'était pour des raisons un peu inverses en fait. Mais effectivement, les jésuites reprochaient l'optimisme de Leibniz. Puis ensuite, c'est devenu un nom du langage courant. Puis qui est passé d'ailleurs d'un champ à l'autre. C'était au départ un terme de théologie qui est passé à la philosophie, puis à la psychologie. Et puis après aux sciences de l'éducation et dans d'autres univers. Puis maintenant, il est partout. Voilà.
Je le disais tout à l'heure, est-ce que nous sommes dans une société en France qui broie du noir et qui est pessimiste de nature, Canaléon ?
C'est ce qu'on dit, hein, bien souvent, et c'est vrai qu'il y a peut-être une habitude, dans la plupart des cas, de se rassembler autour, on va dire, des mauvaises nouvelles, hein, et de râler, voilà, il y a quand même une habitude... un peu en France, de râler sur un peu tous les tons, tous les sujets. Hein. Le train est en retard pour les actualités. Voilà, il y a toujours le temps n'est pas beau aujourd'hui. Oh là là, on va
ça
passer
va
une
mal.
Mauvaise journée, ça va mal.
Voilà, bon. Le pays est en crise. Voilà. Enfin, il paraît que ça va mieux. Mais bon, peut-être bien, justement. Alors, justement, Delphine Lujbulle, vous avez creusé cette question aussi de l'optimisme et de ses effets, parce qu'on va voir justement que ce soit au niveau personnel, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau de la famille, au niveau du travail, eh bien, ça change les choses.
Ben oui, tout à fait. C'est vrai que quand on décide d'être optimiste, parce que c'est vraiment une décision, on peut avoir la chance que ce soit inné, mais sinon ça se travaille, c'est pas pour rien. C'est quand même in fine pour être plus heureux. Et l'optimisme a des effets qui sont prouvés sur la santé, le bien-être, la performance. Donc on a vraiment tout intérêt à le cultiver. Parce que râler, je dirais, c'est un peu comme manger un paquet de chips quand on est stressé. Hein. Sur le coup, c'est super agréable. Mais juste après, quand on a fini, on s'en veut parfois un peu et on a plutôt les effets négatifs.
Aurélie Pénel, je le disais tout à l'heure, cette société, elle nous pèse parfois parce qu'on a l'impression de ramer à contre-courant et de se dire il faut multiplier les efforts, il faut décupler l'énergie pour essayer justement d'être dans le positif. C'est ce qui vous motive aussi, vous, dans votre travail?
Tout à fait. Il y a une chose qui est importante, c'est que l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, elle est ultra contagieuse. Du coup, effectivement, les gens qui râlent, qui ressassent tout, bien sûr.
Ils ne sont jamais contents.
Ils ne sont jamais contents. Ça nous affecte. Ça nous affecte, même si on est plutôt de bonne humeur. Donc, il faut lutter contre ça et propager plutôt des émotions positives parce qu'elles seront contagieuses aussi. Elles aideront un collectif à travailler mieux, par exemple, une famille à voir le positif, à se sentir mieux. Et la contagion des émotions, c'est quelque chose de très important.
Delphine employait le mot chance parce qu'on en dit que ça se travaille, l'optimisme. Alors parfois des personnalités le sont de nature. Philippe Gabillier, est-ce que certaines personnes ont la chance d'être nées ou d'avoir cet optimisme finalement dans leur personnalité?
Alors là, moi, je peux donner qu'une réponse, qui est une réponse de scientifique. Parce que c'est toujours sympa
de
dire...
Je m'adresse au psychologue.
Voilà, hein. Ce qui est inné, c'est la base biochimique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une base biochimique, effectivement, dans le cerveau, qui fait qu'ils vont avoir tendance à être plus optimistes que d'autres. Un truc tout bête, on n'a pas tous le même rapport, par exemple, à la sérotonine. Si vous faites partie des 12 ou 13% de la population dans les pays développés qui sont des gros porteurs de sérotonine, vous êtes un homme ou une femme qui, face aux difficultés, réagit plus rapidement, et plus rapidement, comme on dit, de bonne humeur. Face à un deuil, va en fait le passer plus rapidement. Bon. Alors, là, il y a une base qui est très, très biochimique. Après, il y a les événements de la vie. Vous avez des gens, ils sont nés en première classe. Faut bien admettre qu'ils sont nés dans un pays en paix, avec des parents qui les ont aimés. Ils étaient plutôt pas mal, ils n'étaient pas trop idiots. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes cartes,
oui,
en fait, au
début.
On peut
tout avoir, Philippe Gabillier, et ne pas forcément être optimiste. Ah, et toujours en vouloir plus, parce qu'on n'est jamais satisfait.
Le mot, en fait, ce mot optimisme, quand on l'étudie, il y a trois choses. Il y a une base, un biais, presque, on pourrait dire, inné. C'est-à-dire qu'en gros, l'optimisme, on l'avait à la naissance, heureusement. Sans ça, quand on a appris à marcher, on s'est cassé la figure.
Avoir ce qu'on en fait ensuite.
Oui. Après, on a été élevé par nos parents. Généralement, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui, après, nous a appris qu'il fallait se méfier. Et en France en particulier, on est un pays où le marqueur de l'intelligence, c'est le doute. Alors, vous voyez, le doute, le scepticisme et l'esprit critique. C'est compliqué. Si on fonctionne que comme ça au quotidien, ça devient un petit peu difficile. Et puis, comme vous avez très, très justement dit, il y a le fait, à un moment donné, on peut dire non. Moi, je vais aussi en faire une démarche individuelle. Parfois, je suis, moi, pas très, très optimiste. Mais voilà, j'ai des enfants, j'ai des collaborateurs, je m'occupe de jeunes dans des associations. Je leur dois ça. Parce que si je ne suis pas un inspirateur d'énergie au quotidien, dans le fond, socialement, je sers à quoi? Si je suis uniquement là pour expliquer et rendre l'autre plus lucide, l'esprit plus critique sur le monde...
Et découragé,
c'est tout le problème. Le pessimisme, quand il devient permanent, il est lui aussi contagieux et il va déborder sur du cynisme, du manque d'envie et surtout une méfiance énorme par rapport à son prochain, quoi, c'est tout.
Karine, à Léon.
Oui, pour rebondir, on peut rappeler que selon les études, on a montré qu'il y a 10% en fait de notre contexte qui a un impact sur notre vie. 50% c'est notre génétique, donc voilà, il rappelait les hormones, etc., donc l'aspect biochimique. Et puis, il reste donc 40%. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a 40 possibilités de pouvoir gérer notre vie comme on le souhaite, de choisir nos pensées, de choisir nos émotions et d'aller de l'avant.
Delphine, le Jambule, qu'est-ce qu'on en fait de ces 40%? Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors, j'ai envie de dire, on peut presque tout en faire. Philippe le disait tout à l'heure. Déjà, il y a la chance qu'on a à la naissance. Bon, c'est vrai que déjà, si vous écoutez cette radio, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas trop, trop mal tombé à la naissance. On est quand même dans un pays en paix. Alors, bon, évidemment, il ne faut pas généraliser. On peut bien évidemment avoir beaucoup de soucis, même en vivant en démocratie, etc. Mais on a quand même une base qui n'est pas trop, trop mauvaise. Et pour autant, on a tous en tête l'image de la femme en dépression et dont tout le monde dit « mais je ne comprends pas, elle a tout pour être heureuse ». Et pourtant, elle ne l'est pas, la fameuse phrase. Et c'est vrai, parce que dire à quelqu'un « mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse, sois heureuse », ça marche pas. Le bonheur, c'est pas une injonction, ça ne répond pas à une injonction. Donc l'idée, c'est en revanche de ne pas se dire bah « voilà, moi, je serai heureux quand j'aurai ça, quand j'aurai un meilleur travail, quand j'aurai trouvé un amoureux ».
Là, on est dans le rêve.
Oui, on est dans le rêve. C'est important de rêver, parce que c'est ce qui nous guide, ça nous tire vers le haut, ça nous fait avancer. Mais il ne faut pas se dire que le bonheur, il sera toujours plus tard. La question, c'est qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui ? Si vraiment il y a des choses qui manquent, bah, qu'est-ce qu'il faut que je change ? Mais regardons déjà tout ce que j'ai aujourd'hui.
Qu'est-ce que j'ai entre les mains et qu'est-ce que j'en fais ?
Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, je profite vraiment de ce que j'ai déjà ?
Aurélie Penel.
Oui, moi je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Le bonheur, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et sur le chemin, il faut prendre tout le bonheur qu'il y a à prendre. L'étude dont parlait Karine, c'est une étude de Sonia Lyubomirsky. Et en petite anecdote marrante, elle a montré que si vous gagnez au loto, 2 ans après avoir touché le gros lot, vous allez retrouver votre niveau de bonheur initial, voire un niveau inférieur. Et pourtant, le nombre de personnes qui disent « mais moi, si je gagnais au loto, qu'est-ce que je serais heureux ?» Eh bien non. Alors on peut jouer pour avoir du rêve, se faire plaisir, mais il faut éviter de gagner finalement, parce que ça ne rend pas heureux.
L'argent ne fait pas le bonheur.
Non.
Enfin bon, ça aide quand même un peu.
Ça aide un peu, oui. En manquer cruellement, voilà. Ne fait pas le bonheur non plus. Exactement. On est bien d'accord.
En avoir un minimum est quand même plus confortable.
Philippe Gabillier, je disais tout à l'heure, il faut ramer, parce que c'est vrai que si on regarde la télévision, on écoute les nouvelles sur la plupart, dans la plupart des médias, il y a de quoi désespérer quand même.
Non, enfin, on est sur cette idée selon laquelle la personne qui regarde des mauvaises nouvelles, par exemple, les prend pour elle. Mais attendez, on se complaît. Moi, je suis pas voyé sur un discours. Et voilà, il faut regarder le positif. Soyons heureux. Je pense que tout ce qui est injonction, passe à côté. Soyez optimiste, par exemple. Non, je suis désolé. Parfois, il ne faut pas l'être. Il ne faut pas l'être parce qu'on est dans une situation qui est hyper risquée. On n'a pas de marge de manœuvre.
Il faut être réaliste.
Non, surtout pas. Il faut un pessimisme intelligent. Les gens qui aujourd'hui font des plans B parce qu'ils sont en situation de risque, c'est des pessimistes intelligents. Celui qui va s'assurer sur la vie, c'est un pessimiste intelligent. Il n'y a pas de... Le réalisme, on peut toujours parler de ce mot réalisme, mais le mot réalisme, c'est un mot qui renvoie à des situations de vie... Ils sont pas très passionnants. Vous imaginez vivre votre vie en mode réaliste, sincèrement, ça va pas. Où est la passion? Il y en a marre, quoi. On est dans des vies aussi où on peut aujourd'hui, nous, ce qui n'était pas le cas de nos arrière-grands-parents, on peut faire des paris sur la vie. Nos arrière-grands-parents, ils vivaient dans un rayon de 30 km autour de là où ils étaient nés toute leur vie. Aujourd'hui,
c'est un peu une idée reçue aussi, parce que les gens voyageaient quand même beaucoup plus qu'on ne le croit, changeaient de pays, émigraient, etc.
Alors, je peux vous dire que là, il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration. Donc là, je peux vous dire que ceux qui généralement voyageaient, ils étaient rarement volontaires, vous voyez. On leur avait expliqué qu'il fallait qu'ils s'en aillent sans ça. On leur piquait leurs biens, on les tuait, etc. Donc, là, dans une France rurale, jusqu'en 1914, d'ailleurs, on voit bien, puisque la langue même française commençait à se développer qu'à partir de ce moment-là, les gens, ils bougeaient beaucoup moins. Et quand ils partaient, je pense aux hommes qui partaient, par exemple, longtemps au service militaire, 7 ans de service militaire, ils n'avaient de cesse que de revenir chez eux. Et les femmes, je dirais, quand elles partaient, c'était pour partir dans le canton d'à côté pour épouser un gars très proche de ceux qui avaient
travaillé.
Donc, vous voyez, on vivait dans un monde qui n'était pas très ouvert. Aujourd'hui, on vit dans un monde de possibilité. Alors, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, parce qu'il y a des problèmes de sous. Mais aujourd'hui, la connaissance est devenue quasiment gratuite. Pour voyager, ça coûte quand même beaucoup moins cher. C'est un peu plus sécurisé. Ça ne veut pas dire que tout est sécurisé, mais la sécurité aussi n'est pas non plus une valeur en soi. Vous voyez, donc on vit quand même dans un monde formidable. Et effectivement, il y a des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles sont un marché. C'est le marché d'un certain nombre de médias. Mais je dirais, un marché, je ne sais pas comment vous dire, vous savez, un marché, il n'a pas d'éthique, un marché. Un marché, il n'a que des besoins. Donc, si des gens regardent et consomment, à la limite, pourquoi pas. Mais je ne pense pas qu'ils soient pessimistes pour autant.
Ils peuvent changer leur regard.
Oui, mais surtout, vous avez beaucoup de gens qui regardent ces choses terribles à la radio, ou qui les écoutent, ou qui regardent à la télé. Et dans le fond, dans leur tête, c'est, mais quand même, ici, là, je suis quand même pas mal, quoi, hein.
Ma situation n'est pas si mal que ça.
Ouais, on a tendance, on croit que le fait de voir des mauvaises nouvelles, ça rend pessimiste. Non, vous avez beaucoup de gens que ça rassure sur leurs conditions.
Pour autant, c'est vrai qu'on se dit souvent, pour être heureux, le secret, c'est pas de se comparer à ceux qui ont plus que nous, c'est de se comparer à ceux qui ont plutôt moins. Et en fait, ça, c'est une idée reçue qui est fausse. C'est-à-dire que des études qui ont été menées sur le sujet montrent que les gens les plus heureux, c'est ceux qui ne se comparent pas.
Ah, absolument, ça c'est vrai.
Et c'est un petit peu le risque, je trouve, à effectivement ressasser ce marché là dont vous parlez, qui montre des mauvaises nouvelles. On se dit, bah tiens, au moins je serais rassuré de me dire que moi ça va mieux. Mais en fait, ça ne marche pas.
Non, ça ne marche pas.
Mais c'est un marché, vous voyez, qui existe. Et donc, partant de ce principe, on a la chance d'être dans un pays aussi démocratique où l'offre de médias est formidable. Je suis désolé, quelqu'un qui va voir, qui se met en situation d'aller voir ça, je suis navré, c'est un choix. Et bien, ce choix doit être assumé. On peut faire tellement d'autres choses.
De ne pas allumer sa télé ou ne pas écouter... Alors, non, pas écouter la radio.
Bien choisir ce qu'on écoute à la radio.
Je voudrais rebondir sur l'idée de la réalité, en fait, hein, du réalisme. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un choix, parce que quand on est entouré de ce type d'informations, on subit aussi. Voilà. Mais la réalité, c'est quelque chose qui est une pièce à double face, en fait. Quand on disait le réalisme pessimiste ou optimiste, en fait, c'est juste une face ou l'autre. On choisit de regarder plus une face positive ou plus une face, la face négative, ce qui marche pas, etc. Donc voilà, c'était juste pour recentrer aussi quand on dit il faut être réaliste. Et donc, être pessimiste, c'est être réaliste. Non, bien sûr, parce que la réalité, elle est faite de toutes ces nuances-là. C'est pas la même chose.
Alors, est-ce que vous êtes réaliste, vous qui nous écoutez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous êtes optimiste de nature ou vous l'avez travaillé, cet optimisme? 01 56 56 44 00, si vous avez envie de témoigner. On se retrouve juste après ça.
En quête de sens, 01 56 56 44 00. ADF Bayard Musique vous présente un extrait du nouvel album dans sa collection Méditation, Méditation hébraïque. Accordéon et clarinette s'accorderont pour vous faire découvrir les plus belles pièces du répertoire klezmer, yiddish, hassidish, israélien. Retrouvez l'album Méditation hébraïque chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com.
Du 5 au 7 juin, en plein cœur de Paris, le Festival Biblique revient pour une deuxième édition. Pendant 3 jours, des événements culturels inviteront au dialogue autour des racines bibliques de notre culture dans plusieurs lieux emblématiques du quartier latin. Expositions, concerts, conférences, tables rondes, découvrez toute la programmation du festival sur www.festivalbiblique.org et entrez dans la contemplation du lien originel entre Bible et culture.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical avec Edith Walter, tous les vendredis à 20h45 sur Radio Notre-Dame.
En quête de sens, Sophie Noy.
Et nous parlons de l'optimisme aujourd'hui. Alors, comment changer notre regard sur les situations? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de notre santé, bien-être, au niveau social et au niveau professionnel? On voit que c'est important en entreprise. Et on en parle avec Delphine Lugimbul, qui donc accompagne également des particuliers en quête d'épanouissement professionnel et personnel, qui est co-auteur avec Aurélie Plenel de ce livre « Cultiver l'optimisme » paru aux éditions Philippe Gabillier, professeur en psychologie sociale, conférencier spécialiste de la motivation et des stratégies mentales de la réussite, auteur de cet ouvrage « L'éloge de l'optimisme ». Et puis Karine Alléon, coach et formatrice en communication interpersonnelle, synergie d'équipe et intelligence collective. Karine Alléon, ça change la donne quand on fait travailler les personnes justement sur cette prise en compte, ce regard que l'on peut porter sur les choses et ces situations?
Oui, bien sûr, ça change une ouverture d'esprit de pouvoir envisager en fait des aspects de la situation qu'on vit de manière différente.
Par exemple.
Si quelqu'un a un souci, on va dire de travail, voilà, ça se passe pas bien au travail, j'ai de mauvaises relations avec mes collègues ou mon chef ne me comprend pas, voilà, ce genre de choses, eh bien, qui arrive souvent. on va aider la personne à à voir ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle dit, en fait, cette situation ? De ne pas rester bloqué sur cette interprétation-là. Donc, ça passe par plein de façons. Hein. Mais c'est déjà changer son propre regard s'ouvrir voilà, au possible. Moi, je vois les choses comme ça. C'est parce que c'est pénible à vivre, effectivement. C'est désagréable à vivre. Donc, qu'est-ce que je peux en apprendre ? Est-ce que je peux communiquer aussi différemment avec cette personne pour mieux la comprendre ? Moi, je travaille beaucoup sur la communication. Donc, c'est vraiment un aspect primordial. Communiquer avec l'autre pour mieux le comprendre et puis finalement se rendre compte que ben, ce qu'on s'imagine de son intention, c'est pas ça, hein, par exemple. Voilà. Et puis, on peut faire ce travail avec soi-même aussi. Hein, c'est la communication avec soi-même. En soi, on a différents aspects, on va dire différentes parties de soi. Et puis, on peut des fois n'écouter qu'une partie qui voit les choses de manière négative. Mmh. C'est les émotions.
La petite voix.
Je me sens pas bien. Voilà, la petite rumination. Qui toujours
rumine. C'est trop dur.
Il me comprend pas. On n'y arrivera jamais, etc. Non, donc, on peut aller chercher aussi d'autres aspects. Donc ça demande aussi de la curiosité. Moi, c'est un élément que j'utilise beaucoup dans les ateliers, dans l'accompagnement que je fais. Être curieux avec soi-même, avec les autres aussi, aller chercher, voilà, poser des questions, s'interroger, plutôt que de rester fixé, figé sur son idée première.
Delphine Lugimbule, ces personnes qui viennent vous trouver, qui sont en quête d'épanouissement, justement, qu'est-ce qu'elles veulent changer, finalement, justement ? Ce regard sur les choses, ce déclic qu'elles voudraient avoir pour mieux appréhender leur vie ?
Alors, c'est très varié, hein, puisque les personnes qui sollicitent un coach, souvent, c'est pour atteindre un objectif qui peut être personnel, professionnel. Enfin, c'est très ouvert. Mais souvent, oui, le travail va beaucoup porter sur la façon dont elles perçoivent les choses et dont elles se donnent les moyens, finalement, d'agir, de mettre en place des actions qu'elles n'auraient pas, soit pas envisagées auparavant, soit pas osées, mais être en œuvre. Et pour rebondir sur ce que disait Karine, c'est vrai qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est la bienveillance envers soi-même. On a facilement tendance à s'auto-déjuger, à se dire « oh là là, j'ai raté ça » ou alors « ça, c'est même pas la peine que j'essaye parce que j'y arriverai pas ». On a peur de l'échec. On y faisait allusion tout à l'heure, c'est vrai que dès la petite enfance, on a pour le coup un système même scolaire qui pénalise assez durement l'échec. Alors que, comme disait Karine, l'échec, ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Donc commencer à se dire, bah voilà, je vais tenter des choses, et si je rate, ça ne voudra pas dire que je suis nulle, ça m'apprendra quelque chose et ça me permettra de faire mieux la fois d'après. Ça change complètement la perspective qu'on a sur.
D'ailleurs, toutes les deux, dans votre livre, hein, vous parlez de cet optimisme bienveillant.
Oui, tout à fait. C'était vraiment, pour nous, optimisme et bienveillance, ça doit aller ensemble. Et c'est la bienveillance envers les autres, bien sûr, mais également envers soi-même.
Oui, la bienveillance est un attribut de l'optimisme. Sans bienveillance, on devient narcissique, on devient égoïste éventuellement, mais pas optimiste. La bienveillance, c'est vraiment un attribut. Comme le disait Delphine, c'est s'octroyer le droit à l'erreur, parce que ça nous permet d'agir. Finalement, si je pense que je vais me tromper, bah, j'y vais surtout pas, comme ça je suis sûre de pas me tromper. C'est aussi d'analyser la situation sous un autre angle, pour ne pas reproduire ce qu'on peut imaginer être un échec ou trouver une pépite dans le pépin. Voilà, ça marche pour soi, mais ça marche aussi pour les autres.
Mmh. Et dans la famille aussi, dans notamment, famille. Hein, dans les relations familiales, et vous en parlez.
Pour les enfants. Les enfants, ils ont quelque chose de merveilleux, c'est qu'ils n'écoutent pas leurs parents. Hein. Les conseils faciles, ils ne les mettent pas en œuvre. En revanche, ils copient très bien les comportements. Donc, il faut... Essayons de montrer plutôt l'exemple à nos enfants et de s'octroyer le droit à l'erreur pour qu'eux puissent le faire également.
Philippe Gabillien, ça change beaucoup justement cette notion de positivité dans le monde de l'entreprise, parce qu'on voit que aujourd'hui, beaucoup de managers se posent la question. On parle d'ailleurs de management bienveillant, hein, et ici on en a fait plusieurs émissions. Ça change du tout au tout dans l'activité d'une entreprise.
Bah oui, parce que s'il n'est pas bienveillant, à l'autre bout du spectre, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Sachant que le monde du travail en lui-même, surtout le monde de la grande entreprise, n'est pas a priori un environnement bienveillant. C'est comme ça. On a constitué a posteriori cette idée selon laquelle il y avait des choses à faire. Mais la France, par exemple, ça a été pendant des années. C'est nous qui avons quand même inventé. On n'a pas inventé la réalité, mais le concept de risques psychosociaux, ça a été une invention. Et ça a démarré au début du XXe siècle avec le surmenage, hein, qui était des notions nous beaucoup, beaucoup, beaucoup développées. Et c'est vrai que dans le fond, la bienveillance au travail est un élément aujourd'hui déterminant, et l'optimisme, alors là, je suis complètement d'accord, en fait partie, puisque être optimiste, c'est aussi, vis-à-vis de ses propres équipes, leur apprendre, être un pédagogue de ce qui va bien, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, les résultats positifs, ils sont où. C'est aussi une pédagogie de la marge de manœuvre, ce qui est très important. Qu'est-ce qui va effectivement planter le moral dans une équipe? C'est le fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre, qu'on est planté, qu'on ne s'en sortira pas, qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai que celui ou celle qui est en responsabilité aujourd'hui et qui communique sur des thèmes tels que on a plus de force qu'on pense, on a plus tous autant qu'on est,
c'est la fameuse stratégie mentale.
Plus de marge de manœuvre. Et surtout, l'idée des solutions, le fameux droit à l'erreur. D'ailleurs, on peut même dire que l'optimiste, il va aller au-delà du droit à l'erreur. L'optimiste, il vous dira, mais moi, je vous donne plus que le droit à l'erreur, je vous donne le devoir d'essayer. Et donc, on peut considérer que si on donne le devoir d'essayer à ses collaborateurs, le droit à l'erreur, il est offert avec, quoi, dans le package.
Mais c'est différemment présenté.
Oui, c'est différemment présenté. Et puis, bien évidemment, il y a une réalité dans les entreprises qui fait que certains vont pouvoir, à l'endroit où ils sont, parce qu'ils sont aussi dans une ligne culturelle qui permet de faire ça, ça sera facile pour eux. Moi, je connais malheureusement des entreprises où celui ou celle qui va fonctionner comme ça au quotidien devra effectivement se faire très attention, parce que la logique générale de l'entreprise aujourd'hui n'est pas uniquement celle-là, malheureusement.
Aurélie ?
Oui, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'une équipe optimiste, elle va se fixer des objectifs plus ambitieux, plus d'objectifs. Devant un obstacle, elle va moins renoncer, elle va continuer à se battre, puisque de toute façon, elle sait qu'elle peut y arriver. Et puis, du coup, elle va atteindre ses objectifs, se fixer de nouveaux objectifs, et c'est un cercle vertueux. Par ailleurs, dans les grands groupes, on voit de plus en plus de fonctionnements où on essaye, où on fait ce qu'on appelle des POC, des proof of concept. Là, c'est des expérimentations. On copie un peu le mode start-up, puisque les start-up vont vite, y arrivent bien. Les grands groupes sont vraiment là-dessus. Et on sent un changement culturel. Le droit à l'erreur commence à arriver. J'imagine que dans plein d'endroits, c'est encore
le droit à l'erreur, mais avec l'objectif de la performance derrière.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore avec chaque salarié a un entretien annuel avec des objectifs à atteindre, qui a sans doute des progrès à faire sur le fait d'accepter que tous les objectifs ne sont pas forcément faits pour être atteints.
Ce mode classique ne fonctionne plus.
Ça, c'est d'autant plus compliqué avec la génération qui rentre sur le monde du travail aujourd'hui. La génération d'avant, c'est vrai qu'on est plus un peu sérieux et dans le moule pour ça. On nous dit, on nous donne des objectifs, on a globalement envie de les atteindre et puis on a l'impression d'avoir bien travaillé quand on les atteint. Ceux qui rentrent sur le monde du travail aujourd'hui, si l'objectif ne les motive pas, globalement, ils s'en fichent un peu de ne pas l'atteindre.
C'est un mot-clé, hein. Vous l'avez utilisé aussi, Philippe Gabillier, Karine, le mot « motivation ».
Oui,
parce que tout part de là aussi.
Tout part de là. Eh bien oui, c'est tout simplement si on sait que, on a un objectif à atteindre, mais qu'est-ce qui me motive à atteindre cet objectif? Donc s'il n'est pas un minimum ambitieux, je vais faire le minimum aussi, quelque part. Donc c'est aussi dans une zone de confort, je vais faire le minimum et puis je vais satisfaire mon responsable parce que j'ai atteint mon objectif et je serai satisfait moi-même, bien que justement, c'est plus si satisfaisant que ça. Parce qu'on n'est pas allé au-delà de soi, on n'a pas appris des choses nouvelles, des choses différentes. Voilà, on ne s'est pas exprimé pleinement dans son potentiel. Et justement, on est maintenant dans un monde au niveau de l'entreprise qui est différent, qui est plus complexe, qui est incertain, qu'on appelle volatile, etc. Et ça veut dire que il ne faut plus chercher des solutions purement techniques. On est obligé de chercher des réponses et des solutions qui sont plus complexes. Donc d'où l'idée de l'intelligence collective qui arrive bien sûr en entreprise aussi pour aller créer en fait des solutions différentes, novatrices.
Et ça, comment procéder? Parce que vous parlez de team building, etc., synergie d'équipe, mais quand vous êtes dans une structure où chacun est différent, enfin avec des personnalités complètement à l'opposé, comment ça peut se faire?
Ah ben c'est de, ça, de... au contraire, c'est ça qui marche encore mieux. C'est de mettre ensemble toutes les différences et les particularités de chacun, avec chacun son regard, ses compétences. Et c'est ça qui crée la richesse et qui va donc créer cette créativité et puis la capacité de trouver des réponses complètement nouvelles. Et c'est bien ce dont Delphine parlait, de chercher cette créativité, du droit à l'essai. Alors j'aime beaucoup la formule,
devoir,
hein.
Ouais.
Le devoir d'essayer. Si on n'essaye pas de trouver des réponses différentes, on ne va pas les trouver, bien évidemment. Donc il faut créer des conditions qui permettent de faire ça.
Aurélie Plenel.
Et puis l'objectif est un moyen, finalement. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas là, c'est que finalement, nos salariés sont en quête de sens. Il y a besoin d'une vision. À quoi je sers? Pourquoi je suis utile? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et finalement, plein de personnalités différentes pour construire la vision d'une équipe, d'un collectif, et le sens qu'on a à notre travail. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille, Delphine et moi, avec des entreprises, sur des ateliers. Et ça marche très bien, encore mieux avec des profils différents. Il faut capitaliser là-dessus pour construire la vision et fixer les objectifs qui vont bien si besoin.
Philippe Gabillier, ça paraît simple comme ça.
Ça paraît simple. Alors, vous voyez, les anthropologues, au moins, ils nous apprennent une chose, c'est que tout a changé et pourtant rien n'a changé. Je crois qu'il faut quand même
La
nature humaine est toujours la même. Et en fait, aujourd'hui, comme il y a 50 ans, un individu, un sujet, dans une équipe, quel que soit son métier, quel que soit ce qu'il fasse, dans sa tête, il a trois questions qui vont véritablement bâtir, construire ce qu'on appellera, nous, sa motivation, faute de notre terme. Première question, est-ce que ce qu'on me demande de faire, je me sens capable de le faire? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et trois, ce que j'ai à y gagner, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi? Effectivement, s'il y a une seule des questions à laquelle on répond non, ça va être embêtant pour tout le process.
Faut marcher sur le tapis.
Et moi, en tant que patron, en tant que manager, mais en tant que chef d'équipe, en tant qu'enseignant, en tant que parent, vis-à-vis de mes enfants, de mes collaborateurs ou des jeunes dont je m'occupe, ça va dire, voilà, j'ai trois messages à te faire passer. T'en es capable. Tu vas pouvoir y gagner des trucs. Et ce que tu vas y gagner, tu verras, ça fait sens, ça t'amène sur quelque chose qui serait important pour toi, ça renvoie à des valeurs intéressantes. Ça se fait comme ça. Après, derrière, on peut inventer toutes les méthodologies possibles, imaginables pour faire vivre tout ça. Ce sont des outils. Mais la structure fondamentale de la motivation humaine, elle fonctionne de façon structurelle de la même façon depuis très, très, très longtemps.
Mm-hmm. Faut revoir alors la formation de tous les managers.
Oui, on a des professionnels autour
c'est
de la table.
C'est pour ça, Delphine, Luchimbul.
Oui, des managers, oui, et pas que. Parce que c'est vraiment important aussi que tout le monde se sente responsable. Exactement. En particulier, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent « Non mais moi, c'est pas la peine que j'essaye de faire ci ou ça. De toute façon, mon management ne me suit pas. Bon, » oui. Donc, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, le rôle du manager est clé. Et puis, c'est aussi le manager qui peut, de temps en temps, lancer des actions collectives. Parce que oui, la motivation...
Il faut qu'il y ait une impulsion, au départ.
Il faut qu'il y ait une impulsion. Et puis... c'est pas parce qu'on est une équipe que tous les membres de l'équipe sont motivés par la même chose à la base. Donc à un moment donné, il va falloir réussir tous ensemble à co-construire une vision qui motive tout le monde et qui embarque tout le monde. Alors peut-être pas toujours avec la même intensité.
Alors ensemble, tous ensemble, co-construire, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une motivation collective, un intérêt aussi collectif.
Exactement. Je dirais pour qu'une équipe puisse fonctionner, il faut... d'une part, on va dire, de bonnes relations au sein de l'équipe. Et ça passe beaucoup par un travail sur la communication, en particulier quand les profils sont très différents. Quand on ne fonctionne pas pareil, on peut parfois avoir l'impression que c'est celui d'en face qui est un peu bizarre. Sauf que celui d'en face a la même impression à notre égard. Donc c'est vraiment
apprendre... D'où la communication interpersonnelle.
À communiquer, à se connaître, à comprendre que les gens peuvent avoir des motivations et des modes de fonctionnement très différents des nôtres. Et ensuite, en tant qu'équipe, il faut à minima des objectifs ou des ambitions communes qui fassent sens pour l'ensemble de l'équipe. Et ça se travaille ensemble. Si un manager arrive et dit « bah voilà, nous on est là pour faire ça et on va faire comme ça et on y va », bon, s'il a de la chance, ça marchera. Mais dans beaucoup de cas, il ne va pas entraîner tout le monde.
Tu as de la chance, Philippe Gabillier.
Oui, en revanche, je me demande dans quelle mesure, là aussi, est-ce qu'on peut échapper à l'incarnation? C'est-à-dire, aujourd'hui, je vois en tant que prof, j'ai droit à toutes les nouvelles modes de management, puis on y a droit, quoi.
Alors
maintenant, c'est le manager sans management, le servant leader, tout est global, il y a un inconscient collectif. Bon, à un moment donné, quand même, il y a quelque part un homme ou une femme qui va incarner ce projet.
Il y a un capitaine dans le bateau.
Il y a un capitaine dans le bateau, et dès l'instant où on est, où on est en responsabilité, alors je dirais dès l'instant où on fait un métier, vous voyez, où on a une fonction, non pas où on a charge d'âme, mais où on a charge d'état d'âme. C'est-à-dire, voilà, les métiers où on a charge d'état d'âme, c'est parents, éducateurs, managers, etc. Il y a une question qu'il faut se poser tous les matins, c'est, dans le fond, c'est comment de travailler avec moi. C'est-à-dire, les gens qui me côtoient tous les jours, qu'est-ce qu'ils vivent comme expérience ?
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de managers qui se posent la question ?
Non, mais le rôle des formateurs, coach quand il y en a, voire même éventuellement le rôle de leur hiérarchie, pourquoi pas, ça serait aussi de rappeler ça. Parce qu'on a beau raconter ce qu'on veut sur les managers, moi, depuis 40 ans, j'ai jamais vu quelqu'un fonctionner durablement d'une façon incohérente par rapport à la façon dont il était traité lui-même ou elle-même. Donc, on est aussi sur des lignes, vous voyez. Et de temps en temps, il y en a un ou une qui, dans une entreprise donnée, va dire « Bon, moi, je vais faire ça différemment. » Et celui ou celle qui va faire ça, ça va être formidable. Il fera évoluer probablement les choses. Il prendra un risque, bon, qu'il assumera. Et, mais le véritable enjeu, c'est que les chaînes de management évoluent.
Les chaînes de management évoluent. On va poursuivre cette discussion après avoir écouté « La vie en rose ».
Radio Notre-Dame.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, oui, il l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi.
Ah bon, la vie en rose, c'est sympa, interprété par Liane Folly pour parler de l'optimisme aujourd'hui avec Delphine Lugimbule, Aurélie Penel, Philippe Gabillier et Karine Alléon. On a des lunettes roses, Philippe Gabillier, quand on a pris le parti pris de l'optimisme.
Bah, c'est pas mal dans le fond.
Là.
Dès l'instant, on sait qu'on a la lunette rose. Donc on dit, voilà, j'ai un filtre et je vais décider là, de regarder la réalité avec un filtre un peu différent. Peut-être que le monde va moins mal qu'on le dit. Peut-être qu'on ne vit pas non plus que dans une vallée de larmes. Le monde est fait aussi de découvertes, de rencontres formidables, de gens qui en ce moment sont en train de trouver des solutions à des tas de problèmes qu'on a. Enfin, oui, donc, c'est vrai que la lunette rose, dès l'instant où on sait que la lunette est là et qu'on peut à un moment donné la ressortir pour voir le monde différemment, c'est pas mal quand même. Je crois qu'il y a une pédagogie de la lunette rose à avoir. Qu'est-ce qui va bien dans le monde? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes... Voilà.
Voilà, alors changer le regard, mais aussi changer sa façon d'agir. Parce qu'on peut agir finalement quand on
c'est ça qui est intéressant quand on change le regard. L'idée c'est de dire si je modifie ma perception, si ma perception du monde, je vais peut-être pouvoir anticiper différemment, c'est-à-dire tiens, c'est possible, il y a une solution à laquelle on n'avait pas pensé, why not? Et puis je vais décider, quoi, je vais agir. De toute façon, c'est même dans le mot, vous voyez, on parle d'optimisme. Le mot optimisme, c'est en fait, comment vous dire, c'est de l'optimisation. L'optimiste, il veut faire mieux avec la réalité, et il dit, attendez, de toute façon, je fais un pari. Je fais le pari que sur le long terme, l'intelligence gagnera sur la bêtise. Je fais le pari que, de toute façon, les solutions gagneront les blocages, etc.
C'est un vrai moteur ?
Mais c'est des paris. Mais oui, mais attendez, le pari, il est au centre de la nature humaine. Il est au centre de tout, de la découverte scientifique, de la foi, de tout ce que vous voulez. Il est au centre de tout ça. Et quand on fait un pari, il faut juste être clair sur un truc, on peut le perdre. Mais c'est pas grave.
Si on
faisait pas de paris sous prétexte qu'on risque de les perdre, on fait rien. On crée pas d'entreprise, on crée pas de famille, on fait rien du tout.
Karine Alléon.
Oui, je voulais rebondir sur le fait d'agir, puisqu'on peut déjà penser les choses différemment, mais c'est vrai qu'on va encourager cette nouvelle façon de penser par l'action, et c'est bien ça qui va créer aussi des nouvelles autoroutes de pensée, des nouvelles autoroutes de neurones. Donc expérimenter, c'est vraiment important, donc ça peut être des choses très très simples. Moi, je travaille beaucoup sur la curiosité, comme je dis, voilà, l'ouverture. Si je descends un arrêt de métro avant ou après, ou de bus, et je suis dans presque un nouveau quartier, un endroit que je ne connais pas, donc je vais regarder les choses. Là où j'ai l'habitude et je regarde même plus ce qui se passe autour de moi, ça peut être dans le métro, puisqu'on est quand même à Paris, hein, on passe beaucoup de temps dans les transports. Si je me mets à sourire à mon voisin en face, qui tire plutôt la tête, comme moi finalement, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça change tout. On a un sourire en retour, c'est magnifique. Donc c'est tout ça en fait qu'il y a à expérimenter. Là, je parle des petites choses. Et c'est ça qui permet aussi de dire, ben oui, finalement... il ne fait pas la tête, quoi. Voilà. On peut aussi sourire, peut-être engager la conversation, etc. Donc, et c'est ce qu'on fait aussi dans les ateliers, c'est expérimenter, aller plus loin que juste se dire peut-être que je pourrais changer quelque chose dans ma vie, penser autrement. Si je le fais, j'agis, je le partage avec d'autres gens dans des ateliers, des séminaires ou autres. Là, je vais m'approprier cette expérience-là et pouvoir continuer à l'expérimenter ensuite dans ma vie.
Delphine Lugimbule, est-ce que c'est important aussi de repérer nos freins? Parce qu'on en a des freins.
Oui, tout à fait. C'est important dans le sens où ça va nous aider à les surmonter. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la peur du jugement. Il y a la peur du ridicule qui peut parfois être un gros frein quand on n'ose pas se lancer pour faire quelque chose. Et puis, il y a deux freins à l'optimisme qui sont très fortement ancrés en nous. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'habituation hédonique. En fait, l'homme est naturellement constitué pour s'habituer très vite à tout ce qui va bien.
Parce que notre fameuse zone de confort.
Oui, notre zone de confort et de sécurité.
De sécurité.
C'est-à-dire qu'autrefois, l'homme préhistorique, pour survivre, il fallait qu'il repère drôlement vite tous les dangers.
Mais il fallait déjà qu'il sorte de sa caverne.
Mais c'était risqué. Bon, nous, aujourd'hui, globalement, en France, quand on sort de chez nous, surtout en heure ouvrée, on a assez peu de chances qu'il nous arrive une catastrophe dans la foulée, si on regarde bien avant de traverser la rue. Donc, on peut aujourd'hui réapprendre à se concentrer sur les choses positives. Et voilà. Et ça, il y a des petits exercices assez simples qui permettent de reprogrammer le cerveau.
Parce que ça se travaille, hein. C'est ce que vous décrivez dans votre livre aussi, avec des exercices. Parce qu'une fois qu'on a pris ce chemin de l'optimisme, ben, il faut le travailler, il faut le cultiver.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une petite anecdote pour compléter ce que disaient Karine et Delphine. On est intervenu avec Delphine en centre de relations clients et les gens nous expliquaient... Alors moi, quand j'ai un client agressif le matin, avec insultant, ça me fait la journée. Le soir, je le ramène chez moi, ce mal-être que j'ai ressenti. Et on a posé cette question. Et quand c'est un client très reconnaissant, qui dit merci... je l'ai oublié dès que je suis avec le client d'après. Et ils ont pris la décision en équipe de faire un mur de post-it des phrases sympathiques données par le client, des remerciements, etc. Et de, du coup, le soir, ou même le matin en arrivant, de les relire. Et ça change effectivement la vision qu'on a de notre journée, de celle qui va arriver, et on la prend plus positivement. Des petites actions comme celle-là, de conscientiser les bonnes choses plutôt que de se focaliser sur les mauvaises, ça fait aussi beaucoup de bien.
Mmh. Mais c'est un travail, hein. C'est ce que vous dites. Hein.
C'est un travail, et je pense que là-dessus, on a une responsabilité en tant que parents d'apprendre à nos enfants, dès le plus jeune âge, à penser un peu comme ça. Parce que c'est vrai que souvent, les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils ont un petit peu envie de raconter tous les petits tracas qu'ils ont eus. Et alors, c'est notre rôle de parents de les écouter pour les aider à relativiser. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est de dire, bon, sinon, alors qu'est-ce qui s'est super bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu de waouh? Raconte-moi. Et là, l'enfant, d'un seul coup, son visage change et il va raconter quelque chose.
C'est comme le mur des post-it, il y a pas mal de choses.
Exactement. Et il y en a énormément. Et nous, dans nos journées aussi, il y en a énormément, même dans les journées pas faciles.
Philippe Gabillet. Il faut changer le logiciel voilà, dans notre tête et dans notre cœur.
En tout cas, le changer, je ne suis pas sûr, parce que la preuve, avec le logiciel qu'on a, on ne nous l'a pas changé. En revanche, on peut peut-être essayer de le reparamétrer. Et je crois qu'effectivement, l'une des meilleures façons de reparamétrer le logiciel, vouloir coûte que coûte se mettre des pensées positives dans la tête, par exemple, là, pour le coup, la recherche a montré que ça ne marchait pas du tout. En revanche, à la capacité à retravailler les pensées négatives, ça marche pas mal, et en particulier chez les autres. C'est-à-dire, quel est le meilleur moyen aujourd'hui, me semble-t-il, de travailler son propre optimisme? C'est de devenir un inspirateur ou une inspiratrice d'optimisme pour tous les gens qui sont autour de nous. Ça, je suis convaincu que quelqu'un qui se dit, moi, à partir d'aujourd'hui, bon, bah, moi, je suis comme je suis, sur la longue durée, j'espère que ça bougera bien, mais je suis entouré haute de gens, mais dans ma vie, quoi, même si c'est pas toujours mon métier, mais qui ont peut-être besoin, au quotidien, à la table, le soir, devant la télé, qu'on parle de ce qui va bien, nos marges de manœuvre, elles sont où, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Qu'il y ait une atmosphère d'optimisation, être un créateur ou une créatrice d'une atmosphère d'optimisation autour de soi, c'est probablement le moyen le plus simple de travailler son propre optimisme. Et je dirais comme ça, sa propre amélioration deviendra un effet collatéral positif, ce qui est une bonne nouvelle.
Vous dites que c'est l'antidote au désespoir.
Oui, c'est probablement l'antidote au désespoir, sachant que, bon... oui, en tout cas dans le quotidien probablement. Après, ça pose des problèmes philosophiques, je dirais, de la place de l'optimisme dans la réflexion sur le devenir, le nôtre, etc. Mais c'est un autre souci. Là, on est sur vraiment aussi du quotidien. Je dirais, encore une fois, le père de famille, le professionnel, le manager, l'éducateur, il doit prendre ça de façon très, très, très pragmatique et puis laisser après la réflexion sur leur fondamental peut-être aux philosophes ou aux théologiens, mais c'est un autre sujet.
Delphine Lugimbule, ça aussi, on l'a dit, un impact sur notre bien-être, sur notre santé.
Oui, ça a un impact sur le bien-être et la santé. Alors, bon, ça paraît assez intuitif, mais il y a beaucoup de psychologues sociaux qui se sont penchés sur la question et qui ont fait des études pour le prouver. Philippe parlait tout à l'heure de l'impact de la sérotonine. Bon, il y a des tas de choses qui ont été mesurées chez les optimistes et on constate que globalement, ils développent moins de maladies. Alors, c'est valable pour des maladies toutes simples comme les rhumes, mais c'est aussi valable pour des maladies nettement plus graves comme les cancers. Alors, je ne vous dis pas, évidemment, soyez optimiste, ça vous empêchera d'attraper un cancer. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Mais les optimistes vont plus facilement rentrer en rémission. Bon. Et il y a également un impact sur la durée de vie. Il y a eu une étude moi, qui me fait beaucoup rire, qui a été menée pendant 70 ans, enfin qui a commencé dans les années 30, qui a été réalisée dans un couvent avec des nonnes qui écrivaient le journal de leur vie. Donc comme elles vivaient dans un couvent, elles avaient toutes des vies assez semblables en termes d'événements, tout du moins, mais elles n'en avaient pas la même interprétation. Et 60 ans plus tard, des chercheurs ont analysé ces textes, ils ont fait des analyses sémantiques, et ils se sont rendus compte que les nonnes qui employaient le plus de termes positifs, qui traduisaient des émotions positives, était massivement plus présente, encore vivante, à 85 ans, voire à 90 ans, alors que celle qui en exprimait le moins était décédée nettement plus tôt.
Comment ça s'explique, Gabillard ?
En fait, il y avait aussi ce qui était ressorti de l'étude, c'était que dans toutes ces religieuses, il y avait des personnalités qui étaient des personnalités qu'on appellerait des personnalités hostiles-agressives. Et l'hostile-agressive, c'est quelqu'un qui, pour pouvoir piloter son énergie, a besoin d'avoir quelqu'un sur qui déverser son hostilité, son agressivité. Et la personne généralement hostile-agressive, elle tombe malade le jour où elle n'a plus personne à qui faire souffrir. Alors, et donc, il y avait effectivement des choses qui étaient...
Ça se chez les pervers narcissiques, ça.
Oui, mais sachant que, bon, là aussi, le mot, il a été inventé sur le tard, tout ça. Bon, oui, mais en tout cas, c'est des personnes... Fondamentalement, c'est quand même des gens qui sont malheureux, quoi. Voilà. Et c'est vrai que l'optimiste, tel qu'on le mesure, on se rend compte que, par exemple, le rapport de l'optimiste au traitement médical est différent. Un truc tout bête, moi j'ai discuté j'étais dans un service d'oncologie et un médecin me dit, vous savez, il me dit, moi par défi, mon métier c'est d'annoncer des choses pas sympas à des gens. Et bien, à l'oreille déjà, quelqu'un qui me dit, ah docteur, oui c'est terrible ce que j'ai, vous pourriez me donner toutes les statistiques de rémission et de survie, que je me rende compte un peu de ce que c'est. Je dis, je fais très attention parce que cette personne-là, elle risque de se plonger dans une information qui va la plomber. Alors que celui qui me dit, mais dites donc, sur ce que j'ai, il n'y a pas des associations de patients. Et là, le médecin dit, moi, ça m'arrange beaucoup parce que le gars, même qui a un cancer très grave, dans une association de patients, il va de toute façon mécaniquement rencontrer des gens qui ont ce qu'il a depuis plus de 10 ans. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ces gens-là ont beaucoup plus de choses à lui apprendre que les statistiques médicales de rémission. Mmh. Vous voyez, c'est là aussi où on est dans une posture où, dans tous les métiers, quels qu'ils soient, notre job va être de dire comment est-ce qu'on peut être un créateur à l'endroit où on est, d'un champ des possibles plus riche pour les gens qui nous croisent, quoi.
Donc, Voltaire, c'est fini.
Oh non, Voltaire, c'est pas fini. Et je rappelle quand même que Voltaire, on reproche à Voltaire ce qu'il a écrit sur l'optimisme. On était à l'époque sur un règlement de compte, qui était vraiment un règlement de compte théologique entre Leibniz et Voltaire, ce qui n'était pas très sympa parce que Leibniz était mort depuis longtemps.
Et on parle de Candide,
évidemment. On parle de Candide et l'optimisme, bien évidemment. Et c'est vrai que le livre en lui-même est très intéressant, mais franchement, philosophiquement parlant, Candide et l'optimisme, ça vaut pas tripette.
Vaut mieux lire Socrate. Dans ces cas-là.
Oui, enfin, dans ce cas, vaut mieux lire Platon ou Xénophon et Spinoza. Lisons donc Spinoza, il était très bien. Spinoza. Voilà, Spinoza. Puis faites attention, Schopenhauer, au bout d'un certain moment, ça plombe le moral. Donc voilà, il faut se méfier. Les philosophes, il faut s'en méfier aussi. Certains sont très dangereux.
Oui. Alors, le mot de la fin, Karine Alléon. Parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission.
Oh, dommage. Très intéressant. Le mot de la fin.
Soyons optimistes.
Soyons optimistes.
C'est possible.
Oui, c'est possible. Et j'ai envie de rebondir un petit peu sur la santé parce que le corps et l'esprit sont liés. Enfin, juste à rappeler ça. Et c'est vrai que c'est aussi simple, pas si simple à faire, mais le corps a une capacité d'auto-guérison. Donc, on peut vraiment aider notre corps à s'auto-guérir, en tout cas à retrouver des forces vives. Et notre manière de penser a beaucoup d'influence, en fait, là-dedans.
Delphine, Louis Jambule.
Moi, j'ai envie de dire, soyons optimistes, cultivons nos émotions positives et puis accueillons à bras ouverts celles des autres, diffusons et tous ensemble, propageons l'optimisme autour de nous.
Aurélie ?
Alors moi, j'ai envie d'exprimer ma gratitude parce que ça aussi, c'est une valeur de l'optimiste. J'ai envie de dire merci aux éditeurs qui ont passé ce moment avec nous. Merci à vous, Sophie, Philippe, Karine et Delphine.
Et puis, on lira évidemment votre livre « Cultiver l'optimisme » aux éditions Erol avec tout plein d'exercices justement pour cultiver cet optimisme. Philippe ?
Moi, le mot de la fin, on a envie de dire à tous nos auditeurs, écoutez, faites-nous confiance. Si vous ne pensez vraiment pas que l'optimisme puisse vous aider à être plus heureux, essayez le pessimisme, vous allez voir, on va reparler.
Voilà, c'est une bonne façon de présenter aussi les choses. Et je cite également votre livre à nouveau, « Éloge de l'optimisme quand les enthousiastes font bouger le monde » aux éditions. J'ai lu. Merci à tous les quatre de nous avoir présenté.
Merci.
Un rendez-vous peut-être,
oui,
Karine.
Et donc, soyez curieux si vous voulez en savoir plus et expérimenter l'optimisme en action. Avec un collègue, Christophe Tricard, nous organisons un atelier le lundi 11 juin.
On mettra les infos sur le site. Merci à tous.
Merci.
Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com.